Donc bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui et de circonstances, je voulais parler du Dieu de génération. Vous savez que Dieu bénit et désire bénir de génération en génération. Et je ne sais pas si, comme moi, vous êtes tombé sur ces fameux passages du livre des Chroniques où pendant plusieurs chapitres, on a un petit peu la même chose et on se demande parfois pourquoi Dieu a permis que des chapitres et des chapitres soient remplis de cette façon-là. Hein. Vous connaissez ces passages, voilà, un tel engendra un tel, puis il mourut, et puis un tel engendra... Et ça dure 9 chapitres quand même. Alors, quand je lis, je ne sais pas vous, mais quand je lis souvent ces passages, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que ça prend du temps et on ne comprend pas très bien, ça fait partie peut-être d'un autre temps. Et certainement que ces choses avaient un sens pour les gens à qui c'était adressé, ces paroles étaient adressées. Ces choses avaient un sens. Le livre des Chroniques a été écrit pendant que les Israélites étaient en déportation à Babylone, et certainement qu'à ce moment-là, il fallait faire entrer à nouveau le peuple dans la foi de son héritage en tant que peuple de Dieu pour les encourager à repartir vers le pays promis. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces passages? Et ça me rappelle une petite histoire d'ailleurs, parce que je ne connais pas grand monde à s'être converti sur ce genre de passage, et j'ai malgré tout quand même entendu une personne qui un jour s'est convertie sur ça. Dieu est capable de faire de grandes choses. Et en fait, il était. Vous savez ce qui l'a touché, en fait, c'est qu'à chaque fois, dans tous les versets, il y a quelqu'un qui meurt. Et lui, il avait pas encore vraiment percuté du fait qu'un jour, il allait mourir. Et tout à coup, ça l'a réveillé, parce que pour accueillir la bonne nouvelle, parce que des fois, pour accueillir la bonne nouvelle, il faut déjà avoir conscience de la mauvaise nouvelle, que, oui, il y a un temps pour tout, et puis qu'à un moment, on va partir. Et lui, tout à coup, ce passage lui a fait réaliser ça. Donc, vous voyez, ça peut servir encore aujourd'hui. Mais au-delà de ce genre de percussion dont Dieu est capable, au travers de ce type de passage, il y a aussi une autre façon de penser, de réfléchir sur ce genre de passage. Et pour avoir vécu longtemps en Afrique, et entre autres à N'Djamena, j'ai reçu une clé d'interprétation de ce passage par un voisin. Par un voisin à moi qui venait d'une tribu du désert. Et je discutais avec lui dans la rue, comme des voisins. Enfin, je ne sais pas si on le fait. Oui, on le fait. Ici aussi. Et comme des voisins, on discutait. Et puis, il me disait que dans son peuple, chaque homme, chaque femme devait connaître ses ancêtres jusqu'à la 7e génération. C'est-à-dire pas 7 membres de ta famille, hein, c'est-à-dire ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, etc. Il n'y a plus de place, vous ne m'entendez plus. Mais c'est incroyable. Et dans son peuple, on disait, attention, parce que si quelqu'un ne connaît pas ces 7 générations avant lui, méfie-toi. Alors, je me suis dit, ma culture n'a pas vraiment célébré ce genre de choses. Alors, moi, je connais 3 générations, à peu près comme nous tous, 3, 4. Et pourtant, c'est quelque chose qui a sens. Hein, ce genre de passage biblique, quand un homme dans cette culture-là le lit, ça fait tout à fait sens, ça donne du sens. Alors c'est sûr qu'on réalise aussi que les hommes n'ont pas toujours fonctionné comme nous fonctionnons aujourd'hui. Il y a eu d'autres temps, d'autres défis pour les générations qui nous ont précédés. Pour Dieu, en fait, les générations sont tellement importantes. Et ces passages des généalogies nous le montrent. Mais pas simplement cela. Je me souviens encore, pendant mes études bibliques, je faisais l'école de l'étude inductive de la Bible, je suis tombé sur un passage qu'on avait à interpréter à la lumière du Nouveau Testament, c'était un passage terrible, de Deutéronome 25, versets 11 et 12. Il ne faut pas rire, c'est dans la Bible, mais je vais vous le dire quand même. « Lorsque des hommes se bagarrent ensemble, l'un avec l'autre, et si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties génitales, tu lui couperas la main. » et tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Alors nous, on était en étude biblique et on devait essayer de comprendre quel est le principe éternel de Dieu là-dedans. Alors on a tourné, retourné, re-retourné les méninges, c'était la machine à laver. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et tout à coup, lumière s'est faite. Il y a des miracles. Lumière s'est faite dans ma tête. Et tout à coup, je réalise que tout cela est en harmonie avec le souci que Dieu a de préserver les générations à venir. Au même titre que, c'est vrai, l'adultère était puni très sévèrement dans l'Ancien Testament. Au même titre que finalement, que tout ce qui met en danger les générations à venir est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Dieu veut préserver les générations, parce que les générations à venir, c'est sacré, parce que Dieu veut bénir de génération en génération. Et la rupture de ce plan, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la forme de rupture que les hommes vont introduire sur ce projet de bénédiction, c'est destructeur. C'est destructeur du plan de Dieu. Et Dieu, je crois, a voulu, c'est vrai, mettre en place toute une organisation sociale autour du papa et de la maman pour que, entourée par l'amour de ses parents, la vie vienne. Et non seulement que la vie vienne, mais que la vie soit éduquée, que l'enfant soit éduqué dans cet environnement d'amour où l'homme et la femme, qui sont chacun faits à l'image de Dieu, différents, mais tous deux à l'image du Créateur et complémentaires par leurs différences, qui révèlent de façon particulière les caractères de la nature de Dieu, c'est dans cet assemblage que Dieu désire faire croître, vivre dans l'amour, en aimant et en étant aimé. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. La rupture de ce plan, on le sait, c'est quelque chose qui fait mal. On a tellement de témoignages dans chacune de nos familles, et dans nos propres vies parfois, de ces ruptures qui font souffrir. Alors merci Seigneur, dans son amour, Dieu a envoyé Jésus et il y a un plan de rédemption. Il y a une bonne nouvelle, c'est que bien que vivant dans un monde imparfait, avec des histoires familiales parfois qui sont chaotiques, avec des histoires personnelles aussi qui sont parfois chaotiques, il y a un plan d'amour et un plan de rédemption, et Dieu est capable de pouvoir à nouveau restaurer notre humanité. Mais son plan reste le même. Son plan reste le même. Son plan est toujours de bénir de génération en génération. Et que les générations à venir puissent connaître, non seulement dans une relation personnelle avec Dieu, mais aussi par un environnement social, la nature de cette qualité d'amour que Dieu veut répandre au milieu des hommes. Que Dieu nous aide. L'amour. Et c'est l'amour aussi encore qui est le signe suprême de la vitalité de l'Église. Vous connaissez tous ce passage. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour. L'amour. L'amour au milieu de nous, l'amour à cause du Christ pour nous. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous citer une phrase terrible, extraordinaire, de Saint Jean Chrysostome, 4e siècle, il y a quelques générations avant, 4e siècle après Jésus-Christ, qui disait ceci. Seulement un fou pourrait croire qu'il est possible de changer le monde avec un simple message d'amour et de paix. Donc, nous pouvons conclure que Jésus était un fou. Et seulement des fous peuvent accepter de suivre un tel homme. Nous pouvons donc conclure que nous sommes tous donc, admettons joyeusement que nous sommes fous et nous pourrons joyeusement nous atteler à changer le monde. Amen. C'est un peu surprenant, je l'admets, mais c'est ça, c'est cette folie de l'amour, de croire que l'amour du Christ est capable de transformer. Et cet amour que nous portons, c'est vrai, au sein de l'Église, par l'Église, pour le monde, il commence dans le ventre de la maman, il commence là, dans le couple, il commence lorsque l'enfant naît, dans l'amour qu'il reçoit, qui est déjà quelque part un signe prophétique de l'amour du Père véritable, créateur de toute vie. Et il grandit, et cet amour avec lequel il est familier, il va le découvrir avec le vrai Père, le seul vrai Père, le Créateur de toute vie. Et il y a une cohérence, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de rupture. Et quand on regarde effectivement l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, ou même dans notre histoire contemporaine, on se rend compte que, waouh, il y a de la lutte, il y a du combat entre les générations. Hein, il y a un ennemi qui ne veut pas justement cette bénédiction de génération en génération. On réalise qu'il va y avoir des luttes. Alors je pense à Moïse, où le pharaon va donner l'ordre de massacrer les petits bébés. Est-ce que nous on voit un danger quand on voit un enfant d'un an ou de 2 ans? Non. Mais pourtant, là, un ordre terrible. Ou encore après, souvenez-vous, quand les fléaux s'abattent sur l'Égypte, et puis que Moïse revient vers Pharaon en disant « Mais laisse aller mon peuple, à un moment, Pharaon se ramollit. » Et puis, après les sauterelles, je crois que c'était après les sauterelles, il lui dit « Ok, d'accord, allez-y. » Parce que les conseillers de Pharaon sont en train de lui dire « Mais laisse-les partir, ça va causer notre destruction. » Alors le Pharaon se ramollit et puis dit « Ok, allez-y. » Et puis ensuite dit « Non, pas cela, attendez. Vous les hommes, allez servir l'Éternel. » Allez adorer l'Éternel dans le désert. Allez. Mais seulement vous, les hommes. Les femmes et les enfants restent avec moi. Toujours une volonté. Hein. L'ennemi, même s'il est prêt à laisser les hommes aller louer le Seigneur et chanter avec leur belle voix, et célébrer Dieu avec leur belle voix, il n'est pas prêt à laisser les générations à venir. Et s'il est obligé de laisser partir les adultes, il va essayer de garder les enfants. Et puis essayer de toujours mettre cette rupture entre les générations. Et puis Moïse, d'ailleurs, va avoir une parole terrible. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. Je ne veux pas de cette liberté, si cette liberté est seulement pour ma génération. Nous ne partirons pas, nous ne voulons pas profiter d'une liberté pour nos propres vies seulement. Nous ne partirons pas. Et il va choisir de rester dans l'esclavage plutôt que de partir et de vivre une liberté sans les générations à venir, sans les épouses et les enfants. C'est radical. C'est radical. De choisir de rester unis dans cette malédiction de l'esclavage plutôt que de vouloir s'autoriser à profiter de liberté sans que les générations à venir ne puissent en profiter. Tellement de passages dans la Bible où il y a toujours cette lutte pour passer d'une génération à l'autre. Dans l'histoire de David, c'est la même chose. On voit ces conflits générationnels incessants dans toute l'histoire de la parole de Dieu. Et ces conflits continuent. Et pourtant, au-delà de tout ça, Dieu continue de nous dire qu'il désire bénir de génération en génération. Avec cette parole énigmatique aussi de la fin du livre de Malachie, de l'Ancien Testament, qui nous dit « Voici, je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, afin que le cœur des enfants revienne au cœur du père, et que je ne frappe pas le pays d'interdit et me le voue tout entier. » Le psaume 33, verset 11 dit « Les desseins de l'Éternel subsistent, et les projets de son cœur de génération en génération. » C'est fort comme passage. Je relis. Les desseins de l'Éternel subsistent et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Le projet de l'Éternel, les desseins de l'Éternel ne s'arrêtent pas à notre génération. Mais c'est un projet qui nous dépasse. Alors, vous connaissez encore ces autres passages, psaume 48, admirez son rempart, dénombrez ses palais, pour annoncer à la génération suivante ce Dieu est notre Dieu à tout jamais. Éphésiens 3, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Tous ces passages nous interrogent sur le règne de Dieu dans le temps. Parce que c'est vrai, on a toujours une fâcheuse tendance à limiter la bénédiction de Dieu à notre propre génération. Alors que Dieu déclare qu'il est un Dieu de génération qui veut se révéler et bénir de génération en génération. Un jour, j'étais en train de visiter la cathédrale de Genève et on était en admiration devant les sculptures. Je ne sais pas si vous voyez à droite de la nef, quand vous êtes dans la. Il y a des sculptures magnifiques en bois. Et le guide nous disait, mais vous savez comment nos ancêtres ont fait ces choses, ces sculptures. Et on dit, ben non, comment, parce que ça fait 400 ans qu'elles sont là, ces sculptures, et avec le même bois, ça n'a pas changé. Et puis, devant notre manque de connaissances, il nous a éclairé en nous disant, vous savez, à l'époque, dans la menuiserie, ça ressemblait, je dirais, les techniques de préparation du bois étaient très semblables à celles de la marine. C'est que d'abord, on coupait le bois. Ensuite, on le laissait plonger, soit dans une lagune, soit dans une solution saline, pendant 100 ans. Ensuite, on le ressort, on le fait sécher pendant une vingtaine d'années. Ensuite, on le débite. Et ensuite, on le fait encore sécher une ou deux années. Et puis ensuite, le menuisier commence le travail. Et puis nous, un peu interloqués, ah bon ? Donc c'est pas la même personne donc qui. Non. Le dessein de l'Éternel, hein, le plan est là, le projet est là, mais c'est l'arrière-grand-père qui coupe le tronc, qui coupe l'arbre. Et qui va le mettre dans la solution. Et c'est son arrière-petit-enfant qui peut-être pourra. Et bien à l'époque, les générations, c'était pas. C'était un peu plus serré, hein, on ne vivait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et c'était son petit-enfant arrière ou arrière-arrière-petit-enfant qui allait pouvoir débiter et sculpter quelque chose au travers de ce bois. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était la seule façon d'avoir un bois qui allait tenir et qui allait résister au siècle. Moi, ça m'a touché. Le dessein de l'Éternel subsiste. Le plan de la cathédrale aussi. Que Dieu nous aide. Dieu veut le bonheur de ses enfants aujourd'hui et demain, de génération en génération. Et c'est vrai qu'on a souvent, et c'est un de nos problèmes aujourd'hui, tendance, aujourd'hui de tout temps, à mesurer la réussite des générations qui viennent à l'aune de nos propres valeurs et de nos propres définitions de ce que serait la réussite. C'est-à-dire qu'on a parfois cette tendance de vouloir éduquer les enfants en disant « Ouais, je voudrais qu'ils soient comme moi, quelque part, au fond de mon cœur, ou bien plus que moi. » Et puis on se trompe. On se trompe, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vos enfants soient comme vous. La volonté de Dieu, c'est que vos enfants soient comme Dieu le demande. Amen. Les défis de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents n'étaient pas les mêmes que les vôtres. Leurs défis étaient différents. Et les défis de vos petits-enfants seront différents de vos défis aujourd'hui. Comme le dit ce passage dans la parole, hein, chaque génération, hein, c'est 1 Corinthiens 15 qui dit, à chaque semence son fruit, chaque génération porte en elle quelque chose d'unique. Et il ne faut pas que la génération de mes enfants réponde aux défis de ma génération. Il faut qu'ils répondent aux défis de leur génération, pas de la mienne. Et le défi de transmettre de génération en génération n'est plus simplement une affaire culturelle de comment nous vivons l'Évangile aujourd'hui, mais c'est une affaire de la parole de Dieu, de comment mettre en pratique cette parole dans les défis d'aujourd'hui. Amen. Dieu aime le monde et veut le bénir. Il veut libérer une œuvre de transmission de la bénédiction. Et au travers de cela, alors c'est vrai que souvent on se dit, oui, mais Abraham, parce que vous savez que c'est notre papa Abraham à qui Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies, donc on en fait partie. Donc, sont bénis par ta descendance, on en fait partie. Et lorsque Dieu parle à Abraham, on a tendance à retenir surtout qu'il est le père de la foi parce qu'il a acquis sa justice par la foi. Et on est bien d'accord. Et pour nous, c'est la même chose. Mais on réalise qu'au-delà de sa foi, il y avait une exigence d'obéissance. à la parole de Dieu. Parce que, certes, sa justice, il l'a acquise par la foi, mais l'héritage promis a été acquis par l'obéissance à la recommandation que Dieu lui a faite dès le départ. On le voit dans Genèse 16 et 17. Que ce que je te donne aujourd'hui, hein, tu vas ordonner à tes enfants, à tous les gens de ta maison, de vivre selon l'Éternel, selon les desseins de l'Éternel. Sa foi est le vecteur de sa justification et son obéissance de son héritage et de l'héritage des générations à venir. Amen. Que Dieu nous aide. Vous savez, il y a une chose qui m'émeut profondément lorsque nous sommes à l'Église, c'est la prière des anciens. Alors je sais qu'on est prompt à s'émouvoir des prières des enfants, hein, qui sont fraîches et qui sont tellement belles et pures, et puis on sourit. Mais la prière d'un ancien, pour moi, c'est quelque chose qui est encore plus émouvant. Parce que vous savez, louer le Seigneur, après quelques années d'existence, quand on a connu que le foyer protecteur familial, c'est quelque chose. Mais quand on a vécu une année, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans de vie, et que, comme ce matin, Freddy prie en disant « Seigneur, merci », moi je dis « gloire à Dieu », parce que du haut des années, parce que du haut des décennies de marche avec l'Éternel, de marche avec Dieu, nous avons des témoins au milieu de nous qui nous disent « oui, c'est possible, Dieu est fidèle, accrochez-vous, il y a une bénédiction pour les générations encore à venir, si nous continuons de placer notre confiance en Dieu. » Amen. Que Dieu nous aide. Et en même temps, les jeunes au milieu de nous, je demandais à ma fille, je sais pas où elle est, je l'ai regardée, hier soir, je lui demandais « qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu attends des anciens, qu'est-ce que tu attends des adultes, qu'est-ce que tu attends des adultes qui sont chrétiens ?» Je ne dis pas simplement la famille, mais des chrétiens, adultes, matures, des personnes plus âgées dans la foi. Alors je ne vous dirai pas quelle est la fille qui m'a dit ça, parce que j'en ai trois comme ça. Je la protège. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit « moi j'aimerais que les anciens nous montrent » Les anciens, pas les anciens. Sébastien, calme-toi, respire. que les anciens nous montrent la sagesse. Parmi les choses qu'on ignore, et qui ne sont pas forcément bien, mais qu'on ne sait pas que ce n'est pas bien, on a besoin des anciens pour nous montrer ça. Pour nous montrer quelque part le chemin. Au niveau de la culture qui nous environne, on ne sait pas toujours ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Au niveau de la sexualité, on est quand même dans une culture qui est très orientée sexe. Là aussi, on a besoin d'avoir des modèles. On a besoin d'avoir des anciens qui nous montrent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On a besoin de ces modèles, de ces poteaux indicateurs. Et me disait, il y a des copines, des filles qui ont tellement été harcelé par cette pensée environnante du sexe à tout prix, et qui, parmi ses copines, sont tellement tristes aujourd'hui d'avoir réalisé qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est brisé au travers de cela, de n'avoir pas pu rester dans le conseil de Dieu par rapport à cela. Alors que Dieu nous aide à passer de génération à génération, à être conscient que nous ne portons pas simplement pour objectif notre propre génération, mais que nous voulons aller et porter ce message de bénédiction de génération en génération. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un bon moment pour parler de ça, avec une passation pastorale. Je demandais, hier, tout à coup, je réalise, mais depuis quand, combien de temps existe cette assemblée? Et puis, alors j'écris des mails à David Aigui, de toute urgence. Et puis ils m'ont dit, depuis 1827, c'est plus précisément depuis le 15 juillet 1827. Alors, il y en a eu quelques-unes des passations pastorales depuis 1827. Et puis, certainement, qu'il y a dû y en avoir aussi des tas d'histoires. des histoires belles, des histoires moins belles, des conflits de génération, des problèmes, des compréhensions, des conflits théologiques, relationnels. Il y a eu aussi des choses belles, bonnes, fortes, qui ont ensemencé cette assemblée pour quelque chose qui dépassait les générations aussi. Et il y a eu des tas d'hommes, de femmes, de toute classe, des paysans, des entrepreneurs, des ouvriers, qui sont passés par là, qui ont douté, qui ont prié, qui ont cru que les desseins de l'Éternel s'accomplissent de génération en génération. Et ils l'ont cru pour leur génération, et ils ont persévéré. C'est une radicalité qui a payé, parce que nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu toutes ces générations passées. Ça paye. Et je ne peux pas résister non plus de vous dire à une autre célébration qui avait lieu la semaine passée. Alors je sais que l'âge de cette assemblée est un peu plus vieille que la nôtre. Vous savez de quoi je parle. L'abbaye Saint-Maurice, qui fêtait le week-end dernier les 1500 ans, ces 1500 ans d'existence, avec un culte perpétuel depuis 1500 ans, qui n'a jamais été interrompu. Alors, il y a 1500 ans, il n'y avait pas encore d'église catholique, évangélique, mais il y avait réellement là un héritage. C'est le seul, le plus vieux sanctuaire dans lequel la prière a duré de façon ininterrompue pendant 1500 ans. On est héritier aussi de tout cela. Alors, c'est vrai, on n'est pas à 1500 ans, hein, on est bientôt à 200, mais quand même. Quand même. Alors qu'on arrive à un mouvement charnière de l'histoire de cette assemblée, et au travers de cette assemblée aussi de cette région, eh bien, nous voulons célébrer Dieu. Amen. Nous voulons célébrer Dieu et son conseil pendant toutes ces années, au travers de tous ces serviteurs de Dieu qui sont passés et qui nous permettent d'être là encore aujourd'hui. Amen. À chaque semence son fruit, à chaque génération sa destinée. Et nous voulons vraiment accueillir le conseil de Dieu pour cette génération qui est là, aujourd'hui, dans cette salle, et les générations qui viennent, afin que nous puissions continuer de persévérer et de croire. Faisons attention parce que, vous savez, il y a un passage dans les Proverbes qui dit « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ?» Car ce n'est point par sagesse que tu demandes ceci. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Hein. Ouais, mais avant quand même, hein, c'était quand même, hein, c'était pas comme ça quand même. Non. C'est pas la sagesse qui t'inspire ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la sagesse. Si c'est pas la sagesse, c'est que c'est l'inverse de la sagesse. Vous définirez vous-même et mettrez le mot qui convient. À l'inverse de la sagesse. Mais souvent, c'est vrai qu'on est souvent toujours tenté un peu de s'accrocher. Vous savez, comme on est au ski, on tombe du tire-fesse et puis on veut absolument s'accrocher au tire-fesse pour absolument... Mais non, j'ai attendu pendant combien de temps alors. Et puis c'est vain parce qu'à un moment ou un autre, tu vois devoir lâcher. Et parfois, on est un peu dans cette tentation. On s'attache parfois. La difficulté, c'est vrai, le monde change, les défis changent, les générations passent, et puis on est tenté de s'accrocher en se disant « Ouais, mais ça, quand même, c'était bon. Mais ça, c'était notre héritage, quand même. » Et ce n'est pas la bonne façon de faire. Parce que tu vas souffrir inutilement. Et même si, c'est vrai, la Suisse perd, l'Europe perd de ses valeurs, perd des repères, on ne va pas le récupérer comme ça, en un tour de main. Mais, par contre, c'est de continuer de se centrer sur ce message de l'Évangile, de rechercher premièrement le royaume de Dieu, aujourd'hui et maintenant. Amen. S'accrocher au passé, ce n'est pas ça qui nous le fera revenir. Mais de chercher aujourd'hui le règne de Dieu, dans les défis de notre génération. Amen. Ça va le faire revenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est vrai, tu veux bénir de génération en génération. Et ton désir, c'est que nous puissions continuer à persévérer dans la foi après tous ceux qui nous ont précédés, et que nous puissions enseigner aussi à nos enfants et aux générations à venir à faire de même. C'était le cœur de ton message à Israël lorsque tu les as fait entrer dans le pays promis. Que ces paroles que je te donne aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, tu les inscriras sur les frontons de ta maison, sur les poteaux de ta maison et sur le fronton de tes portes. Seigneur, nous disons oui, amen. Merci, Éternel, pour ta faveur et ta fidélité. Accompagne-nous dans nos défis quotidiens et apporte-nous ce pain dont nous avons besoin pour être non seulement pour avoir non seulement des solutions, mais pour être une réponse aux défis de nos générations. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.